Amis, bonsoir. Soyez les bienvenus pour la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en Tarentaise. La conférence de ce soir, intitulée « Le vrai visage de Madame Blavatsky », revêt un sens particulier puisque c'est un 8 mai 1891 que cette grande dame, figure essentielle de la théosophie, nous a quittés. Les théosophes ont décidé que ce jour du 8 mai serait appelé jour du lotus blanc. Et cette belle image de la graine de lotus qui tombe dans de la boue, dans de l'eau boueuse, et qui s'épanouit ensuite en une belle fleur tournée vers le soleil, fait référence à l'homme en évolution qui porte en lui le germe du divin. Nous ne sommes pas le 8 mai, mais le 4. Nous n'avons pas de lotus, mais nous avons quelques fleurs blanches que nous vous invitons à venir chercher à la fin de notre rencontre. Hein. Vous en prendrez une chacun, une ou deux, ça dépend ce qui restera. Et donc pour que peut-être, jusqu'à ce qu'elles se fanent, nous gardions symboliquement en nous le souvenir de Mme Blavatsky à qui nous devons tant. Alors, pour introduire la conférence de ce soir, nous allons lire un passage du quatrième message adressé par Madame Blavatsky aux théosophes américains réunis en congrès, mais qui s'adresse aux théosophes du monde entier. Message du 15 avril 1891, 3 semaines seulement avant la mort de Madame Blavatsky. Tout compte fait. Tous les vœux et toutes les pensées que je pourrais exprimer se résument en cette phrase unique, ce souhait toujours vivant dans mon cœur. Soyez théosophe, travaillez pour la théosophie. À tout moment que la théosophie occupe votre pensée, car seule sa réalisation pratique peut sauver le monde occidental du sentiment égoïste et antifraternel qui divise actuellement les races et les nations, et le libérer de cette haine de classe et ces distinctions sociales qui sont la malédiction et le fléau des peuples soi-disant chrétiens. Seule la théosophie peut sauver ce monde d'une chute complète dans la décrépitude et la putréfaction, comme l'ont fait toutes les civilisations. En vos mains, frères, et placez en confiance le bonheur du siècle futur. Et si grande est la confiance, grande aussi est la responsabilité. Il ne me reste peut-être que peu de temps à vivre, et si quelques-uns d'entre vous ont appris quoi que ce soit de mes enseignements, ou ont eu par mon aide un éclair de la vraie lumière, je vous demande en retour de fortifier la cause dont le triomphe permettra à cette vraie lumière, rendue encore plus éclatante et plus glorieuse par vos efforts individuels et collectifs, d'illuminer le monde et ainsi me prouver avant que je ne m'évade de ce corps usé, que la stabilité de la société est assurée. Puissent les bénédictions des grands instructeurs passés et présents s'étendre sur vous. En ce qui me concerne, acceptez collectivement l'assurance de mes sentiments fraternels, vrais et inaltérables, avec les remerciements sincères et profonds pour l'œuvre accomplie qu'adresse à tous les travailleurs, leurs servantes à jamais, H.P. Blavatsky, et c'est daté du 15 avril 1891. Place maintenant à la conférence.
Alors, amis, on va essayer de découvrir le vrai visage de Madame Blavatsky. Alors, il faut savoir que de son vivant comme de après sa mort, il a été beaucoup parlé de Madame Blavatsky. Elle a été critiquée, calomniée, elle a même fait l'objet d'une conspiration, tant elle dérangeait les institutions parce qu'elle voulait faire tomber tous les dogmes, que ce soit aussi bien les dogmes scientifiques, aussi bien que les dogmes religieux. Elle balayait les superstitions, les croyances aveugles, tant et si bien qu'elle a beaucoup, vraiment beaucoup dérangé. Alors, même si elle a été réhabilitée par la suite, eh bien, ça laisse quand même des traces. Et il faut dire que, à son époque, peut-être même comme aujourd'hui, très peu de personnes savaient vraiment qui elle était. Alors, on va essayer un petit peu de voir tout ça. Alors, Elena, donc, elle est née dans la nuit du 11 août au au 12 août 1831, en Russie, dans une famille noble, à une époque où le choléra décimait tout le pays. Et comme l'enfant était un peu chétive, il a été décidé de la baptiser très vite, dans la semaine qui a suivi. Et tandis que le prêtre officiait, un prêtre orthodoxe, eh bien, une petite fille qui tenait un cierge, par inadvertance, mit le feu à la soutane du pope et ça a créé une panique dans l'église. Alors on peut dire, d'une certaine façon, que Elena fut baptisée dans les flammes par les prêtres d'une église dont elle a toujours dénoncé les dogmes fallacieux. Alors, durant son enfance, Elena manifesta de très forts pouvoirs parapsychologiques. En fait, elle était clairvoyante, elle était somnambule. Quand elle était présente quelque part, elle provoquait des phénomènes de poltergeist. En fait, ce sont des coups frappés, des objets qui se déplacent. Et donc, elle faisait un petit peu peur aux domestiques avec ses pouvoirs. Sa famille était un petit peu étonnée. Mais enfin bon, c'était comme ça. Elle avait ses pouvoirs. Et c'est que très lentement plus tard qu'elle a su, qu'elle a appris à les maîtriser vraiment, tous ses pouvoirs. Souvent, quand elle était quelque part, on avait l'impression qu'elle n'était pas tout à fait là, qu'elle était dans un monde à part, un monde à elle. Et elle semblait discuter avec des gnomes ou des lutins du folklore russe. Et en fait, cette petite fille, elle avait deux natures. C'était une petite fille qui était à la fois très têtue, obstinée, un vrai garnement qui en faisait qu'à sa tête. Et puis, d'un autre côté, c'était quelqu'un qui avait de fortes dispositions métaphysiques et mystiques. Par exemple, un jour, dans la bibliothèque de son arrière-grand-père, elle découvre des livres, une multitude de livres traitant de magie, de phénomènes étranges, d'alchimie. Et elle va se mettre à dévorer ces livres et rien ne pourra l'en détourner. Elle pourra rester des heures et des heures dans la journée, même dans la nuit, à lire ses ouvrages. Alors, parmi tous les faits qui sont assez surprenants dans la vie de Madame Blavatsky, il y en a un, en fait, qui est vraiment des plus étonnants, c'est qu'en fait, il semblait qu'elle était protégée par un homme grand, d'apparence orientale, qu'elle voyait dans ses visions. Et en fait, cet homme l'a sauvée de plusieurs problèmes. Quand elle était petite, à un moment donné, elle a fait un espèce d'échafaudage avec des tables, des chaises et tout. Et voilà, pour essayer d'attraper un tableau qui était très très haut. Et bon, tout tombe et là, elle n'a rien. Un autre jour, elle est à cheval parce qu'elle montait très bien à cheval, comme les hommes. Et puis, en fait, elle est désarçonnée et elle est retenue par un pied à un étrier. Et là, des témoins vont dire qu'elle semblait flotter jusqu'à ce que le cheval s'arrête et elle s'est posée délicatement dans l'herbe. Donc, il faut savoir qu'il l'a sauvée de plusieurs situations difficiles et ce ne fut que plus tard qu'elle rencontrera physiquement cet homme. Alors, lorsqu'elle eut 18 ans, ses amis parièrent que jamais personne ne pourrait la demander en mariage à cause de son caractère, de sa façon un petit peu garçonne, de ses dispositions, enfin bref. Ses amis lui dirent « Même le vieux Blavatsky ne voudra pas de toi ». Et là, elle va relever le défi et elle leur dit « Écoutez, je suis sûre que dans quelques temps, il va me demander en mariage ». Et c'est ce qu'il fait. Il la demande en mariage, il est accepté. Seulement, HPB ne savait pas que quand on donne sa parole en Russie pour une chose aussi importante, on ne peut pas se défiler, on ne peut pas revenir en arrière. Et du coup, elle va être mariée et assez rapidement parce que sa famille a peur d'une de ses frasques. Du coup, elle va être mariée, donc voilà. Et elle n'a pas pu reculer. Et vraisemblablement, quand son époux a dû vouloir consommer le mariage, elle va lui jeter un chandelier sur la tête qui va se briser en deux et elle va partir de la maison en se jurant de ne jamais revoir cet époux, qu'elle ne voulait pas. Et en fait, il faut savoir que cet événement malheureux, on va dire, eh bien, finalement, a un retournement très, très, très positif. Parce que le mariage pour HVB faisait d'elle une femme émancipée de sa famille. Et le fait qu'elle rompe l'union avec son époux, eh bien, ça faisait une femme carrément émancipée, libre, complètement libre. Et là, maintenant, elle pouvait aller découvrir le monde. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va partir voyager, elle va aller en Grèce, en Égypte. Là, elle va côtoyer un copte qui va la guider quelque temps. C'est un être qui est très érudit en occultisme. Donc, elle va rester quelque temps avec lui pour comprendre, connaître. Elle est très curieuse, elle veut tout savoir. Et en fait, elle ne va jamais rester très longtemps dans un endroit parce qu'une fois que l'endroit n'a plus rien à lui apprendre, eh bien, elle s'en va ailleurs, elle part. Et en 1950 ou 51, on ne sait pas trop pour la date exacte, en tout cas, elle se trouve à Londres et là, elle est dans un parc, elle est assise. Et puis arrive une délégation qui accompagne le premier ministre du Népal. Et dans cette délégation, oh stupeur, elle reconnaît l'homme de ses visions. Et donc immédiatement, elle se lève pour aller à sa rencontre. Et là, immédiatement, elle est arrêtée mentalement. Il lui parle mentalement. Et il lui demande de revenir le lendemain à telle heure. Et c'est ce qu'elle va faire. Et c'est là que la rencontre a lieu avec celui qu'elle va appeler son maître. Et lors de cette rencontre, eh bien, il va lui proposer une mission qui va bouleverser sa vie, qui va changer totalement sa vie, qui va lui donner un sens, bien évidemment, mais aussi qui va la sacrifier. Et cette mission, elle aura besoin d'un temps très très long de préparation. Et Madame Blavatsky va bien évidemment accepter cette mission. Et donc, il va falloir qu'elle aille d'abord pour cette mission, qu'elle apprenne, qu'elle découvre la connaissance. Et elle va faire à peu près 3 fois le tour du monde, partout où il y a des foyers vivants qui transmettent une véritable connaissance, elle va y aller. Et elle va voir à l'œuvre tous les pouvoirs psychiques qui existent, qui sont manifestés par des hommes qui sont un peu plus en avance ou plus éveillés. Et elle va apprendre expérimentalement le gouffre qui existe entre la manifestation de pouvoirs psychiques et une authentique vie spirituelle. Et ces pouvoirs, donc, elle les verra à l'œuvre, autant aux mains de chamans, de sorciers, que de hauts adeptes. Et quelquefois, elle les verra pour le bien de l'ensemble, pour le bien des gens, mais elle les verra aussi à des fins criminelles. Donc, elle saura faire la part des choses par la suite. Donc, dans ses voyages, elle accédera au monde fermé de l'Inde, du Tibet, et qui à cette époque était vraiment extrêmement fermé. Mais là, elle va carrément rencontrer des hauts mystiques de ces lieux. Elle va même entrer dans la confrérie des Druzes. Et donc, voilà, on voit qu'elle va vraiment à des endroits extrêmement importants. Elle va côtoyer aussi bien les Indiens peau rouge, elle va côtoyer les Vaudous de la Nouvelle-Orléans, elle va côtoyer aussi des chamans, elle va côtoyer plein d'individus, elle va même rencontrer les derniers représentants des Incas. Donc, on voit que vraiment, ça va durer pendant 20 ans tout ça. Elle finira aussi par rencontrer des adeptes qui font partie de la même confrérie que son maître. Donc voilà, elle a 20 ans après, elle a beaucoup appris, énormément. Il faut savoir que c'est son père qui va financer ses voyages. Elle va recevoir de l'argent, ce n'est pas toujours évident. Des fois, l'argent a du mal à arriver. Et du coup, eh bien, quand elle n'a pas assez d'argent, elle va donner un concert de piano lorsqu'il y a un piano disponible, parce qu'elle joue divinement bien du piano. Donc elle se débrouille. Et puis, voilà qu'on va passer en 1871, elle a 40 ans, donc 20 ans ont passé, elle est au Caire, en Égypte. Et là, elle va essayer de fonder une société, une société basée sur le spiritisme, dont l'objet est de baser l'effet du spiritisme d'un point de vue scientifique, en dénonçant d'un côté les supercheries, mais en montrant exactement ce qui se passe au niveau du spiritisme. Et là, cette société, eh bien, en fait, ça va être un échec. Elle va durer 14 jours, et c'est un échec. 2 ans plus tard, on va la retrouver en Russie. Elle retrouve sa famille. Et là, elle est en Russie depuis presque un an. Elle va recevoir l'ordre de son maître d'aller à New York. En fait, il faut savoir que c'est en Amérique que finalement sa mission va réellement commencer. Parce que tous les éléments sont prêts, il n'y a plus qu'à attendre que les connexions se fassent. Alors aux États-Unis, à cette époque, il faut savoir que le spiritisme était vraiment très... battait son plein, pour ainsi dire. Tout le monde s'intéressait au spiritisme. Et donc là, Madame Blavatsky avait pour mission de rétablir les faits sur une base scientifique, d'expliquer les choses, les lois, à partir de toute la connaissance de ses maîtres et de dénoncer bien évidemment les supercheries, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas très honnêtes dans ce milieu. Et elle va justement en profiter de se servir de l'authenticité des phénomènes pour prouver, enfin pour montrer qu'il y a un monde caché, il y a des lois qui sont inconnues, donc pour aborder la face cachée de l'homme et de l'univers. Et là, elle va rencontrer un homme de loi qui s'appelle Monsieur Olcott, c'est un colonel qui s'intéresse au spiritisme et qui, en fait, fait une enquête pour un journal. Et là, cette rencontre va être capitale, parce qu'il va naître entre eux une amitié et une collaboration qui durera tout le temps de la vie de Madame Blavatsky. Donc, ce sont deux êtres très importants qui vont se rencontrer. Et puis, quelques mois plus tard, eh bien, il y a un troisième individu qu'elle va rencontrer. Donc, c'est William Quant Judge, qui est un jeune avocat. Et lui, alors là, c'est vraiment particulier, parce que c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a des personnes qui sont là pour travailler dans l'humanité et qui reprennent aussi le travail à un moment donné. Et si vous voulez bien, on va simplement lire ce que William Quant Judge dit à propos de sa rencontre avec HPB. Alors, il va dire « Ce fut son regard qui m'attira, celui de quelqu'un que j'avais dû connaître dans un lointain passé, dans d'autres vies. Ce n'était pas pour l'interroger sur des philosophies que j'étais venu en sa présence, ni comme un chercheur tâtonnant dans les ténèbres pour retrouver des lumières obscurcies par certaines écoles et théories fantaisistes, mais bien plutôt comme un homme qui, après avoir longtemps erré dans les couloirs de la vie, était en quête des amis qui pourraient lui montrer où avaient été cachés les plans de l'œuvre à réaliser. Elle répondit loyalement à cet appel et révéla à nouveau ses directives, sans donner à leur sujet d'explication verbale, mais en se contentant de les indiquer. Puis elle se remit à l'ouvrage. C'était comme si nous nous étions quittés la veille au soir, en laissant inachevés certains détails d'une tâche entreprise dans un but commun. Nous étions comme maître et élève, frère aîné et frère cadet, tous deux tournés vers le même objectif. Mais elle avait la puissance et la connaissance qui n'appartient qu'au lion et au sage. Je vis par ce regard, qui jamais ne changea par la suite, qu'elle me reconnut dès cette première heure. Alors donc, voilà ces trois individus qui se trouvent ensemble. Et ils vont créer la Société théosophique dans l'été 75. Elle sera officialisée le 17 novembre 1975. Et cette société théosophique, eh bien, elle aura trois buts. Et le premier but, c'est de former le noyau d'une fraternité universelle de l'humanité, sans distinction de race, de couleur ou de croyance. Le deuxième but, ce sera d'encourager l'étude des écritures ariennes et autres écritures, des religions et des sciences du monde, et prouver l'importance de l'ancienne littérature asiatique, notamment celle des philosophes brahmaniques, bouddhiques et zoroastriennes. Et troisième but, étudier sous tous les aspects possibles les mystères cachés de la nature, et spécialement les pouvoirs psychiques et spirituels latents dans l'homme. Donc voilà. Alors là, une fois que cette société est créée, eh bien Madame Blavatsky va tout de suite se consacrer à l'ouvrage d'un livre très important, un livre qui va faire à peu près 1300 pages. Et donc elle va se mettre à l'ouvrage et ce livre sortira 2 ans plus tard, en 1877, sous le titre « D'Isis dévoilé ». Et il faut savoir que ça va être un véritable succès. Et ce livre sera dédié pour l'étude de tous les sujets qui seront traités donc par la société théosophique. Et ça va être un succès parce que au bout de 10 jours, le premier tirage est complètement épuisé. Tous les journaux de New York vont en faire l'éloge en disant que c'est un ouvrage qui représente un travail immense de recherche. Mais alors, chose absolument étonnante, c'est que Madame Blavatsky, quand elle a écrit cet ouvrage, eh bien, elle n'est jamais quasiment sortie de cette pièce où elle écrivait cet ouvrage. Elle n'avait aucune bibliothèque à sa disposition, rien, ni même des notes qu'elle aurait pu prendre et conserver durant tous les voyages qu'elle a fait. Rien. En fait, tout était écrit d'inspiration. Et pourtant, en fait, quand on lit ce livre, eh bien, on va trouver des références énormes, précises, de dates, d'ouvrages qui ont été consultés dans des bibliothèques, notamment. Alors, des textuellement reproduits, bien évidemment, et des ouvrages qu'on va retrouver au British Museum, dans d'autres bibliothèques, et même dans la bibliothèque du Vatican, qui est quasiment impénétrable. En fait, il faut savoir que Madame Blavatsky avait donc des pouvoirs que maintenant elle maîtrisait, et en fait, elle avait la capacité de voir la connaissance devant son œil intérieur. Et elle était toujours donc aidée et guidée par ses maîtres hein, pour cette connaissance. Et pour ceux qui douteraient de ses capacités, de ses possibilités, eh bien ça voudrait dire que tout le livre qu'elle a écrit, toutes ces dates qu'elle a données, ses références précises, tout ce qu'elle a recopié minutieusement, textuellement, d'ouvrages pris dans ses bibliothèques, eh bien tout ça, ça parviendrait de sa mémoire, ce qui est quasiment impossible, c'est pas une possibilité pour un individu ordinaire. Donc nous pensons que vraiment, quand elle dit que la connaissance vient devant ses yeux intérieurs, nous pensons que c'est vrai. Elle a la capacité d'entrer dans les mémoires de la nature d'un point de vue intérieur, donc. Alors, donc la première partie de ce livre va être consacrée à la science. Et là, elle va donc expliquer un petit peu les sciences qui existent dans le monde actuellement, mais elle va surtout montrer ses limitations à cette science. Elle va opposer cette science au pouvoir, aux capacités d'un être qui est complètement réalisé. Elle qui, précisément, avait ce genre de pouvoir, elle pouvait parler de ça, hein. Et donc, elle va faire la distinction entre les deux et elle invite vraiment les scientifiques à se poser des questions et donc à reconnaître et explorer l'immense face cachée de l'être humain. C'est l'objet de cette première partie, c'est vraiment d'interroger les scientifiques. Ensuite, la deuxième partie, elle sera consacrée à la théologie. Et donc là, elle va dénoncer bien évidemment le monopole religieux de religions occidentales, hein, qui vont rendre silencieuses toutes les voix de la sagesse d'Orient, parce qu'elle a tellement peur d'être rivalisée et même surpassée dans cette religion occidentale. Donc, elle ferme la porte à tout, il ne faut pas s'intéresser aux religions païennes, elles sont rabaissées, bref. Donc, et là, Madame Blavatsky, elle va demander à toutes les religions, finalement, même aux religions orientales, de revenir à l'enseignement de l'instructeur, à l'enseignement originel, de façon à ce qu'on découvre dans toutes les religions des convergences, des similitudes, similitudes dans les idées et convergences dans cette voie qui ramène à l'union avec le divin. Et donc, si l'Occident voulait bien faire ça, ben ce serait aussi une façon d'universaliser la religion, de l'ouvrir beaucoup plus. Et Madame Blavatsky, elle va aussi dans ce livre parler de ces foyers d'initiation qui existent actuellement, puisque elle a vécu ça. Il faut savoir qu'elle a été plusieurs fois initiée et qu'elle en est sortie complètement épuisée, mais toujours complètement déterminée à servir la cause de son maître. Et donc, elle pouvait parler de ça, expliquer que dans ces foyers, jadis, de nombreux hommes ont été initiés et ont pu communier intérieurement avec l'esprit divin qui est en eux. Et elle témoigne aussi de l'existence actuelle de ces foyers d'initiation, qui sont peut-être beaucoup plus fermés maintenant, et sous la garde, bien évidemment, de sages qui conservent l'héritage du glorieux passé, bien évidemment. Mais enfin, elle montre qu'il existe ce système initiatique. Alors, là, maintenant, il faut savoir, une fois qu'elle a donc écrit ce livre, qui est lu un peu partout, et là, maintenant, on peut étudier plein de choses, mais ce livre va poser plein de questions, bien évidemment. Et là, Madame Blavatsky, avec ses collaborateurs, vont répondre à une multitude d'articles, ils vont donner dans des journaux, tout ça, ils vont répondre aux gens, aux interrogations, ils vont éclaircir des choses. Mais très vite, Madame Blavatsky va se remettre à l'ouvrage d'un autre livre qui est vraiment son œuvre magistrale. Et ce livre, c'est La Doctrine Secrète. Alors là, un livre d'à peu près 1700 pages, vraiment un travail énorme. Alors, dans ce livre, il faut savoir que Madame Blavatsky va nous dire que, en fait, ce livre est basé sur des anciens documents ou des anciens manuscrits qui sont de la plus haute antiquité, des manuscrits qui sont secrets. Ces manuscrits, en fait, il va y avoir des stances. Ces stances, elles sont dans une langue qui est complètement inconnue et qui est beaucoup plus ancienne que le sanskrit et qui s'appelle le Zensar. Et elle, Madame Blavatsky, elle va les traduire et elle va les commenter successivement dans sa doctrine secrète. Et ces stances, en fait, elles vont parler d'une part de toute la cosmogénèse, c'est-à-dire la naissance du monde et de la Terre, etc., et d'autre part, de l'anthropogénèse, c'est-à-dire de toute l'histoire de l'humanité, finalement. Et bien évidemment, on entrevoit la destinée de l'humanité et son but aussi. Et Madame Blavatsky, dans sa dédicace, eh bien en fait, elle va dire que ces enseignements n'appartiennent ni à la religion hindoue, ni zoroastrienne, ni chaldéenne, ni égyptienne, ni au bouddhisme, ni à l'islam, ni au judaïsme ou au christianisme exclusivement, parce que en fait, il faut savoir que c'est l'essence de toutes les religions. Et le jour où chacun reconnaîtra toutes les vérités ou certaines vérités, eh bien, et puis qu'ils les reconnaîtront aussi dans les autres, eh bien, ils finiront par admettre cette connaissance originelle, cette gnose, qui est la source dans laquelle toutes les religions finalement sont enracinées. Et avec le fil du temps, toutes les religions finiront par s'y refondre. Mais ce n'est pas encore d'ici demain la veille, c'est évident. Alors, dans son message au XXe siècle, Madame Blavatsky va s'adresser à tous les hommes, Donc c'est le message du XXe siècle, mais c'est aussi le message des siècles à venir, parce que les hommes, avec le temps, ils sont devenus instruits, tout le monde devient des penseurs qui sont capables de réfléchir, et peut-être qu'ils s'adressent encore plus maintenant à tous les hommes qu'au siècle, à la fin du XIXe siècle. Enfin, dans son message, donc, la première chose qu'elle va faire, eh bien, elle va complètement nier cette idée du Dieu personnel, du Dieu anthropomorphique, des religions monothéistes, mais elle va dire qu'il existe un principe universel qui est immuable, qui est à la racine de tout ce qui va naître dans l'univers. Et on peut dire que ce principe dans lequel tout est enraciné, eh bien, ça peut correspondre à ce qu'on pourrait appeler le divin ou Dieu, si vous voulez, Dieu non manifesté. Et à partir de ce principe qui correspond à un aspect conscience, substance, qui est donc la racine sans racine de tout ce qui est, la cause sans cause, on essaye de trouver des mots pour essayer de cerner un petit peu cette idée, eh bien, à partir de ce principe va émaner par réflexion un univers. Et cet univers qui va se déployer, qui va à un moment donné d'ailleurs se refondre dans cette source, eh bien cet univers, il va naître à partir d'un germe. Et ce germe, en fait, c'est la mémoire synthétique de tout l'univers, tous les univers qui l'ont précédé, et notamment de l'univers qu'il a juste derrière lui, qui l'a précédé. Il est, pour ainsi dire, le fils de l'univers qui l'a précédé, qui serait le père, d'une certaine façon. C'est une image. Donc, Madame Blavatsky va nous montrer ça, et en fait, tous les êtres, à quelque niveau qu'ils soient, et tous les êtres représentent le tissu même de cet univers, et à plusieurs niveaux, parce qu'il y a plusieurs plans de conscience. Il y a le plan matériel, il y a des plans intermédiaires, il y a le plan spirituel, il y a le plan divin. Enfin, tous ces plans, il y a des êtres qui en font partie, qui sont le tissu même de cet univers. Et tous ces êtres, eh bien, ils vont reprendre une place et une fonction compte tenu du degré d'éveil qu'ils ont acquis par le passé. Ils sont aussi la résultante de toute leur vie passée, de toute leur expérience passée. Et tous ces êtres, eh bien, on pourrait presque dire que ce sont le symbole plus ou moins imparfait de Dieu manifesté dans la nature. Et l'homme, eh bien, on peut dire que, en fait, il est le produit du divin qui s'est humanisé. Et nous, nous devons tendre vers la perfection. Et tendre vers la perfection, eh bien, ça va être diviniser l'humain pour retourner à sa source. Et donc, il faut bien comprendre que c'est pas en une vie que les choses vont se faire. Et Madame Blavatsky nous parlera de cycles qui sont immensément longs, comme la vie d'un univers, bien évidemment, puis des cycles plus petits, et d'autres encore plus petits, etc. Eh bien, ces cycles correspondent à une alternance entre l'activité et le repos. Durant la période d'activité, on fait des expériences, par exemple, nous, en tant qu'hommes, des expériences, on est soit conscient, on a des choix, d'ailleurs, on fait des choix, certaines situations, on s'engage dans la vie, tout ça. Et puis, après la mort, eh bien, il va y avoir une période de repos, mais une période d'assimilation où on va se défaire finalement de toutes les enveloppes pour arriver à ce divin. Mais comme on n'a pas déployé tous les pouvoirs de conscience, enfin en tout cas une partie, une bonne partie, on va être amené à se réincarner pour continuer notre évolution. Et pour arriver à développer collectivement une humanité quasiment parfaite au bout de la fin d'un très grand cycle. Donc voilà, elle nous dit tout ça et bien évidemment, on comprend que dans cette histoire, eh bien, l'homme, eh bien, il n'est pas du tout entaché par le péché originel, ni à genoux pour prier un Dieu donc, qui est complètement impuissant, qui ne peut pas répondre. Dieu, il n'est pas extérieur, il ne peut pas répondre, ce n'est pas un être. Dieu, il est à l'intérieur de tous, de tout ce qui vit. Et en fait, la destinée qu'on a, eh bien, on ne peut pas demander à un Dieu de changer les choses, puisque c'est nous-mêmes qui avons créé les causes. C'est nous-mêmes qui avons tous les pouvoirs pour changer les choses, pour changer le monde presque, on pourrait dire, en se changeant soi-même. Donc, en fait, il faut comprendre que toutes les conditions dans lesquelles on vit, ce n'est pas un hasard, c'est des causes que nous avons produites. Et avec la loi de karma qui nous remet sur le métier et qui rétablit toujours l'harmonie qui est perturbée, eh bien, voilà, on est lancé donc dans ce vaste processus d'évolution où il faudra qu'on tire des leçons de toutes nos erreurs pour se changer volontairement par des efforts auto-induits et autodéterminés pour arriver à cette perfection qui finalement, cette perfection, c'est quoi? Eh bien, c'est réaliser l'unité, la réaliser complètement. Aujourd'hui, on est un être, on se sent séparé, donc il va falloir abattre les barrières de la séparativité. Notre soi-conscience, elle est à partir de l'être qu'on s'est construit, de notre mémoire physique, on va dire. Mais là, il va falloir aller beaucoup plus loin. Ça va être tout le chemin, c'est arriver à sa source, dans une totale soi-connaissance et soi-conscience de cette source. Hein, c'est le rayon qui retourne au soleil. Donc voilà, elle va donner plein d'idées comme ça, qui sont très intéressantes. Et donc, il y a aussi une chose très importante qu'elle va mettre en évidence, c'est que cette fraternité, dont toutes les religions ont parlé, qui est tellement difficile à mettre en pratique, hein, eh bien, cette fraternité, en fait, c'est un fait de notre nature, une réalité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous enracinés dans ce pouvoir divin, nous sommes comme un rayon de ce soleil spirituel central, mais il n'y a pas de différence entre les rayons. Hein. La seule différence est une différence d'éveil, donc on va dire d'assimilation de toutes nos expériences passées. Et donc, cette fraternité, eh bien, du fait que nous sommes tous enracinés dans le divin, on est automatiquement tous liés ensemble par ces liens justement de fraternité. Et le fait qu'on soit liés ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas de cloisonnement étanche entre vous, entre moi, entre l'humanité, etc. En fait, toutes nos pensées, tous nos désirs, tout ça, eh bien, ils ont une répercussion sur l'ensemble. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, on est influencé par les pensées des autres comme on influence les autres. Donc, ça veut dire que notre responsabilité, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on le pensait. Ce n'est pas seulement dans nos actions qu'on est responsable. On est responsable aussi dans nos pensées, dans nos désirs, dans tout ce qu'on veut, dans tout ce qui passe à travers notre mental. Donc il faut que l'homme prenne conscience de ça. Il faut qu'il se tienne debout. Et quand il a pris conscience de ça, il faut qu'il s'engage dans ses devoirs. Et puis qui prenne sa destinée en main parce que c'est lui qui est le créateur de sa destinée. Il n'y a pas de Dieu qui va nous punir ou autre, c'est lui, c'est l'homme. Donc il va falloir qu'il se prenne en main et qu'il avance finalement dans le sens voulu par la nature, dans le sens de l'évolution, de façon à éveiller tous ses pouvoirs pour les mettre au service de l'humanité. Voilà un petit peu le grand message que Madame Lavastie va apporter aux hommes. Et donc, on a bien compris que Madame Blavatsky était en lien direct donc avec son maître, mais aussi donc son maître faisait partie de ce qu'on appelle cette grande loge blanche des maîtres, cette grande fraternité d'éveillés qui ne sont pas allés jusqu'en nirvana, mais sont restés, ont refusé le fruit de tout leur sacrifice, de tout leur éveil, pour pouvoir rester à travailler près de l'humanité, pour pouvoir aider l'humanité en tout cas. Et chaque fois qu'il est possible, eh bien, cette loge s'engage, intervient dans l'humanité à partir du moment où son karma le permet, bien évidemment. Et donc, cette loge a pour objectif d'indiquer la voie de libération de l'homme qui est complètement asservi par sa nature animale, sa nature égoïste. En fait, la nature animale, la nature égoïste, ce n'est que les enveloppes impermanentes de l'homme. Donc, on y est très attaché, effectivement, mais enfin, il faudra peut-être prendre du recul par rapport à tout ça. Et donc, cette grande loge, elle a pour objectif de montrer la voie, de façon à montrer que pour l'homme, il y a possibilité de se régénérer et de devenir, de renaître à l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, eh bien, qui c'est? Eh bien, c'est Osiris, c'est Krishna, c'est Bouddha, c'est Christ. enfin peu importe la religion dans laquelle on se trouve, mais on trouvera qui est cet homme divin qu'on a en soi, que l'on porte en soi. Et donc la loge a toujours montré ça, mais on comprend bien que si on veut entendre le message finalement que nous donne Madame Blavatsky et à travers elle la loge des maîtres qui nous montre la voie vraiment de notre évolution, eh bien si on n'a pas des vérités vraies sur lesquelles se baser, des vérités qui nous montrent le monde tel qu'il est, qui montre ce qu'est l'homme, qui montre l'évolution, le but, tout ça. Si on n'a pas des vérités vraies sur lesquelles se baser, eh bien, on est complètement dans l'ombre. On ne pourra jamais marcher vers le sentier qu'indiquent les maîtres. Donc, Madame Blavatsky était là pour précisément redonner ces vérités qui sont vraies, réelles. Eh bien, c'est le seul flambeau dont l'humanité a réellement besoin. Et un besoin vital. Et Madame Blavatsky, elle s'est sacrifiée pour nous apporter cette vérité. Donc, il faut dire aussi que Madame, on a dit que Madame Blavatsky s'était adressée donc à tous les hommes et les hommes des siècles à venir. Donc, ça va très loin. Mais elle s'est aussi adressée au petit nombre de gens sincères, donc au petit nombre de gens qui étaient conscients de l'enjeu qui se menait dans l'humanité, où elle était d'un côté menacée par un matérialisme à outrance et d'un autre côté par le fanatisme des religions. Donc, Madame Blavatsky s'adresse à ce petit nombre d'êtres complètement sincères qui a envie de faire vraiment quelque chose pour les autres, qui comprend la nature du message, qui a envie d'embrasser la cause des maîtres, qui sont volontaires pour créer un noyau de fraternité, hein, un noyau de fraternité sur lequel plus tard viendront s'agréger d'autres êtres pour finalement créer une véritable fraternité sur Terre, pas seulement dans le cœur, mais sur Terre. Et là, donc, elle s'adresse au petit nombre et elle connaît la nature humaine. Elle est carrément clairvoyante et donc, elle sait, elle connaît la nature des hommes. Elle sait ce qui se passe, elle sait ce qui peut y arriver. Et donc, elle va toujours montrer, elle va avertir ses compagnons en disant « Attention, dans l'homme, ce qui finalement finit par détruire les relations entre les hommes et l'unité notamment, eh bien, c'est l'orgueil, la vanité. » Donc, elle met le doigt sur des points difficiles de notre nature, de nos défauts, qu'il va falloir éradiquer, hein, si on veut vraiment, si on est vraiment sincère. Et donc, elle va mettre l'accent là-dessus. Alors, elle va aussi montrer que c'est en vivant cette fraternité, au jour le jour, que finalement, on sera plus capable de la retransmettre le message qui est donc c'est un message qui est plein d'espoir et de fraternité. Donc, et si on le vit vraiment, on va pouvoir parler dans une note tonique qui est en accord avec le message. Et les idées seront plus facilement comprises par les autres. Et peut-être que cette note tonique, elle finira par réveiller quelque chose du spirituel dans l'individu qui nous écoute, qui entend ce message. Alors, il faut bien comprendre que adopter cet idéal de service, eh bien finalement, c'est devenir plus apte à aider et à instruire les autres, donc à redonner cette théosophie. Et là, Madame Blavatsky, du coup, elle va écrire un livre en 1889 intitulé « La clé de la théosophie » et qui sera précisément pour ses élèves, pour qu'ils puissent apprendre et enseigner à leur tour. Donc voilà, déjà pas mal de choses disponibles. Madame Blavatsky travaille énormément. Mais donc il faut savoir que ces êtres, ce petit nombre, s'ils entrent aussi dans une voie de service et qu'ils sont vraiment sincères, et que finalement ils arrivent à surpasser tous les défauts de leur nature pour former ce noyau de fraternité, eh bien c'est aussi finalement entrer dans une voie qui éveille des sens spirituels. Et ces sens spirituels vont faire que l'homme, ces hommes, ces êtres sincères et sérieux, eh bien, ils vont commencer par saisir la connaissance de l'intérieur. Et c'est une voie finalement qui va les amener progressivement à s'approcher petit à petit des maîtres et de la loge des maîtres. Et il faut savoir qu'un de ses compagnons, Madame Blavatsky, a dit ceci à propos d'elle. Alors, dans ses enseignements, nous pouvons la trouver, découvrir l'instructeur qu'elle était. Elle n'abandonnera jamais aucun chercheur sincère, mais l'aidant et le prenant par la main, elle le conduira auprès des saints êtres face à face. Donc, on comprend bien que, on comprend la place un petit peu que Madame Blavatsky avait au sein de cette grande fraternité de maîtres et de disciples. Et il faut savoir, on l'a dit tout à l'heure, qu'elle avait des pouvoirs et qu'elle a appris progressivement à les maîtriser. Mais il lui arrivait parfois de les manifester devant certaines personnes. Et il faut savoir que c'était toujours avec une intention qu'elle le faisait. Et son intention, c'était de donner une instruction particulière et personnelle à celui qui en était témoin. Et bien évidemment, il restait à charge de celui-ci de comprendre la leçon qui était derrière. Et donc, comme tout grand instructeur, Madame Blavatsky, c'est vraiment là le point sur lequel on veut insister, que c'était vraiment un instructeur vraiment exceptionnel. Et même si elle ne s'est jamais posée comme un instructeur, parce qu'elle était très, très humble, et là, en tout cas, ce qui nous fait dire qu'elle était aussi un véritable instructeur, c'est le fait que jamais elle ne s'est interposée entre la lumière et l'aspirant à la sagesse. En fait, ce qui primait pour elle, c'était bien évidemment l'enseignement, la nourriture qu'elle pouvait donner à cet individu, par exemple. Et ce qui fait qu'on voit que finalement elle s'est même sacrifiée quelque part, elle est toujours restée en retrait pour pouvoir redonner cet enseignement. Et ce qui primait aussi, c'était bien évidemment le bien supérieur de cet individu. Et Madame Blavatsky va dire, ne me suivez pas, ni mon sentier, mais suivez le sentier que j'indique et les maîtres qui sont derrière. Voilà.